Nous avons demandé à Monsieur l'abbé Jamran de faire cette conférence sur Notre-Dame du Mont-Carmel. D'abord parce qu'il aime beaucoup Lourdes et qu'il nous a encouragés dans cette voie d'étude sur Lourdes. Monsieur l'abbé Jamran vient d'être ordonné et vous lui pardonnerez peut-être quelques timidités. Notre-Dame, donc, à Lourdes apparaît la 18e fois le 16 juillet à Bernadette sur la rive droite du Gard, donc à l'endroit où vous avez récité. Notre-Dame était dans le rocher, mais Bernadette était sur la rive droite. La raison historique, c'est que l'autorité laïque avait interdit la grotte. Notre-Dame a été silencieuse ce jour-là. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, il y a probablement une raison pour que Notre-Dame apparaisse le 16 et non pas le 17 ou le 18 ou le 10. S'il y a une raison, il faut la chercher dans la fête, Notre-Dame du Mont-Carmel. Et c'est à ce titre, donc, que cette conférence vient dans ce congrès marial. Nous croyons que les deux armes que Notre-Dame de Lourdes, après la résurrection de son divin Fils, nous conseille, nous donne à Lourdes, c'est le rosaire, nous l'avons vu hier soir avec le Père Marie-Dominique, et puis le scapulaire et toute la doctrine ou la spiritualité de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Excellence, messieurs les abbés, bien chers amis, le Père Petitot, dans son livre « Apparition de Notre-Dame à Bernadette », écrit « Avant que ne fût créé le pèlerinage de Lourdes et qu'on eût pris l'habitude d'appeler la Vierge Notre-Dame de Lourdes, il n'était pas de vocable plus honoré dans toute la chrétienté que celui de Notre-Dame du Mont-Carmel. On peut en effet constater dans l'Église catholique l'importance de la dévotion au scapulaire et donc de la dévotion à Notre-Dame du Mont-Carmel qui reste pour nous la Vierge du scapulaire. À l'occasion des fêtes du 7e centenaire de l'apparition de Notre-Dame à Saint-Simon-Stock, apparition dont nous parlerons tout à l'heure, qui a eu lieu le 16 juillet 1251, à l'occasion donc de ce 7e centenaire, des fêtes religieuses ont été organisées un peu partout dans toute la chrétienté, du 16 juillet 1950 au 31 juillet 1951. Et parmi ces fêtes, organisées partout, il y a eu un congrès international carmélitain qui s'est tenu à Rome en août 1950. Et le pape Pie XII, à cette occasion, a voulu faire une allocution aux carmes qui étaient réunis là-bas. Je le cite. Il parle du 16 juillet 1251, date mémorable non seulement pour l'ordre du Mont-Carmel et pour tous ses affiliés, mais pour le monde entier. Depuis ce jour, en effet, combien d'âmes ont dû, même en des circonstances humainement désespérées, leur suprême conversion et leur salut éternel au scapulaire dont ils étaient revêtus. La dévotion, continue le pape, la dévotion au scapulaire a fait couler sur le monde un fleuve immense de grâces spirituelles et temporelles. Alors, à l'occasion de ce congrès marial, il nous est bon de scrutez ce vocable de Notre-Dame, Notre-Dame du Mont-Carmel. Et pour ce faire, nous verrons d'abord dans une première partie ce qu'est le Mont-Carmel dans l'Écriture sainte et pourquoi le souvenir de Notre-Dame y est attaché. Ensuite, nous examinerons très vite l'histoire de l'ordre du Carmel et nous verrons comment ce vocable a une histoire et ce qu'elle signifie pour l'ordre et pour toute l'Église. Et enfin, dans une troisième partie, nous parlerons du scapulaire, puisque Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est Notre-Dame du scapulaire. Qu'est-ce que le Mont Carmel? Pourquoi le souvenir de Notre-Dame est attaché à ce lieu géographique de Palestine? Le Mont Carmel, c'est d'abord cette belle montagne qui se dresse dans la partie nord d'Israël, au-dessus de la plaine d'Esdrelon, ceux qui connaissent peut-être la Terre Sainte, pour aller se terminer sur la mer. Cette montagne a tenu une grande place dans l'Antiquité et dans l'histoire du peuple élu. Étymologiquement, Carmel vient de Kerem El, en hébreu, qui signifie « vigne de Dieu »,« jardin de Dieu ». C'était un nom commun qui est devenu un nom propre pour désigner cette montagne qui devient, dans l'histoire du peuple élu, la montagne par excellence, le jardin, symbole des grâces et des bénédictions divines. Le Carmel très fertile, symbole des grâces et des bénédictions dont Dieu veut combler son peuple. Nous voyons déjà comment rien que ce nom peut se rapporter à la Sainte Vierge, qui a porté la source de toutes les grâces, notre Seigneur. Et dans l'Écriture, bien souvent, les prophètes citeront le Carmel. Le Cantique des Cantiques dit « Ta tête est belle comme le Carmel ». Nous avons le prophète Jérémie qui rappelle, au nom du bon Dieu, à Israël infidèle les dons que ce peuple avait reçus. « Pourtant, je vous avais conduit au pays du Carmel pour vous rassasier de ses fruits et de ses biens ». Le Mont Carmel, c'est donc ce lieu géographique, célèbre par sa fertilité, symbole des dons et des promesses divines. Le Mont Carmel est aussi célèbre par son histoire. Et là, nous allons rappeler cette histoire qui remonte au IXe siècle avant la venue de notre Seigneur. Le roi Salomon est mort et le peuple élu est divisé en deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Achab, le roi d'Israël, a épousé Jézabel, fille du roi de Tyr, qui est païenne. Et le roi, sous l'influence de sa femme, va se livrer aux pratiques du paganisme, et spécialement au culte du dieu Baal, dieu de la fécondité. Et le roi entraîne le peuple à sa suite, et c'est une grande partie d'Israël qui apostasie. Alors le bon Dieu ne laisse pas son peuple dans la misère, il envoie son prophète Élie, qui annonce un châtiment, 3 ans de sécheresse et de famine. Et ces châtiments ont pour but d'humilier le peuple qui finira par accepter l'ordre d'Élie. Élie dira au roi « Envoie tout Israël près de moi sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel. » Et Élie va proposer un pacte. Pour prouver qui est le vrai Dieu, les prêtres païens vont offrir un sacrifice. Et Élie, à leur suite, offrira aussi un sacrifice. Le sacrifice qui sera agréé du vrai Dieu sera consumé par le feu qui descendra du ciel. Les prêtres de Baal sont d'accord et ils commencent leur cérémonie, invoquant leur Dieu jusqu'au soir. Jusqu'au soir et sans réponse. Élie, ensuite, le soir arrivé, déposera un taureau sur l'autel de bois qu'il fera arroser en abondance par 3 fois. C'est la sécheresse en Israël. 3 fois, Élie fera arroser cet autel. Et Dieu répondra à l'appel d'Élie. Il fera descendre le feu sur la victime. Et alors le peuple, là, devant ce miracle, s'écriera « C'est Yahvé qui est le vrai Dieu ». Le peuple se convertit et sur l'ordre d'Élie, qui n'est pas très œcuménique, les prêtres de Baal sont égorgés. Après cette victoire, Élie envoie son serviteur sur le sommet de la montagne. Et il entend le grondement de la pluie qui arrive. C'est Dieu qui répond à son peuple. Le châtiment va cesser. « Monte, dit-il à son serviteur, et regarde du côté de la mer. » Le serviteur ne voit rien. Il y monte 7 fois de suite. Et il finit par déclarer « Voici un nuage, petit comme une trace de pied d'homme qui monte de la mer. » Et enfin, ce nuage apporte la pluie abondante qui vient désaltérer le pays. Dieu a pardonné à son peuple. Voilà l'histoire qu'il nous faut retenir, mais surtout les thèmes que nous rencontrons dans cette histoire. Nous savons que dans l'Ancien Testament, tout est figure de ce qui devait advenir dans le Nouveau. Nous avons un lieu riche et fertile, symbole de la grâce. Le roi et le peuple apostasient. Ils rompent l'alliance que Dieu avait faite. Se tournant vers les faux dieux de la fécondité, cherchant les bénédictions là où elles ne sont pas. Et Dieu fait miséricorde en suscitant son prophète. L'alliance est renouvelée, la pluie tombe du ciel, symbole de la grâce qui est rendue. Il y aurait là bien des choses à développer, nous nous arrêterons seulement à ce qui touche notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire le symbolisme de cette petite nuée. Toute la tradition a appliqué cette nuée à la Sainte Vierge. Cette nuée apparaît dans le ciel, Notre-Dame est envoyée par le bon Dieu. Elle monte de la mer parce que Notre-Dame est une créature. Elle porte la pluie parce qu'elle apporte notre Seigneur la source de tous les biens. Nous voyons déjà que le Carmel annonce la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui se fera par l'incarnation du Verbe. Et qui porte le Verbe? Qui l'apporte aux hommes? Notre-Dame. Et la liturgie du 16 juillet, dans la préface de la messe, dit qu'il est bon de rendre gloire à Dieu qui a révélé au bienheureux prophète Élie, au moyen d'un léger nuage se levant de la mer, l'Immaculée Vierge Marie. L'épître de cette messe, c'est ce passage où le serviteur voit arriver le petit nuage. Les pères de l'Église abonderont dans ce symbolisme de la nuée. Je citerai simplement Saint Proclus de Constantinople en 446, la Sainte Mère de Dieu et Vierge Marie est cette nuée légère qui porta incorporer celui qui siège sur les chérubins. Chrysippe de Jérusalem au 5e siècle, salut nuage de la pluie qui donne leur breuvage aux âmes des saints. Voilà, toute la tradition applique cette petite nuée à la Sainte Vierge. Et les Carmes ont toujours vu dans cette petite nuée l'origine de leur dévotion mariale. Ils sont les fils de celle que le prophète Élie a connue par la vision de la nuée. C'est ce que rapporte l'institution des premiers moines, un livre qui aurait été composé en 412, qui en fait très vraisemblablement date du XIIIe siècle, mais qui pourtant rapporte des traditions antiques de l'ordre. Élie, pendant que son serviteur montait sur la montagne, était prosterné en prière, et là il a eu cette révélation, la nuée annonce l'Immaculée, celle qui apportera le Sauveur au monde. Alors, le symbolisme du Mont Carmel dans l'Écriture, c'est qu'en pleine apostasie d'Israël, au moment où tout semblait perdu, Dieu intervient en se servant du prophète Élie, du petit reste demeuré fidèle, et renouvelle l'alliance. Il annonce une alliance définitive, et cette alliance se fera par Marie. Dont Guéranger, dans l'année liturgique, dit que l'éternelle sagesse avait choisi le Carmel pour être, au siècle des figures, donc dans l'Ancien Testament, l'apanage anticipé de la fille d'Ève qui briserait la tête de l'antique ennemi. Le Mont Carmel, c'est donc la terre de l'espérance du salut qui vient, espérance annoncée dans la nuée, attendue par les fils des prophètes, c'est Marie, annoncée et attendue comme médiatrice du salut. Voilà ce qu'est le Mont Carmel. Le Carmel, c'est aussi un ordre religieux. Nous allons quelque peu survoler l'histoire de cet ordre et voir comment le vocable de Notre-Dame du Mont Carmel va apparaître et comment ce vocable est riche de signification. L'ordre du Mont Carmel a toujours voulu chercher ses origines dans les temps bibliques, nous l'avons vu. Nous voyons comment donc le Mont Carmel annonce Notre-Dame, et les traditions du Carmel nous rapportent ce souvenir de Marie qui s'est perpétué sur le Mont Carmel. La vie religieuse, en effet, s'est continuée après Élie, Élisée, et les fils des prophètes, cette école de prophètes qui se tenaient sur le Mont Carmel, attendaient la venue de celle dont Élie avait eu la révélation. Au Moyen-Âge, le chartreux d'Orlandus, dans sa vie de Sainte-Anne, rapporte la visite de Marie enfant avec Sainte-Anne sur le Mont Carmel. Postus, en 1479, un carme, écrit le « Du patronat de Notre-Dame ». Et là, il a des considérations aussi sur ses visites de Notre-Dame. Les visites de Notre-Dame après la Pentecôte et la construction par les ermites du Mont Carmel d'une chapelle en l'honneur de Notre-Dame après son Assomption. Les historiens se disputent, que faut-il penser de ces traditions? Très vraisemblablement, elles ont un fond de vérité, car les auteurs du Moyen-Âge recopiaient des documents authentiques. La visite de Notre-Dame au Mont Carmel est rapportée par Saint Cyril d'Alexandrie. Elles ont peut-être, donc ces histoires étaient embellies, elles ont certainement un fond de vérité. Ce qu'il faut retenir, c'est que leurs auteurs voulaient transmettre au Moyen-Âge l'origine foncièrement mariale du Carmel, l'esprit marial de cet ordre. Au XIIe siècle, c'est l'époque des croisades, la délivrance de Jérusalem, la fondation du royaume latin de Jérusalem en 1099. Des latins, des occidentaux, donc viennent en Terre Sainte et s'installent sur le mont Carmel, se joignant aux ermites orientaux. Et là, ils vont petit à petit donner une forme occidentale à cette vie religieuse qui était un peu précaire. Et ils seront approuvés par le pape Calixte II. Une règle sera donnée par le patriarche de Jérusalem, Saint Albert, et l'ordre va s'étendre petit à petit en Chypre, en Sicile. Le chanoine Henri Pelletier, dans son Histoire du Carmel, dit que le Carmel est le sanctuaire béni de la Mère de Dieu, d'où son culte rayonnait dans tout l'Orient. Une chose qui est importante, une chronique de l'époque, en 1220, fait mention de la construction par les ermites du Mont Carmel d'une église dédiée à Notre-Dame. À cette époque, consacrer une église à un saint ou à une sainte, c'était se consacrer à ce saint ou à cette sainte. Et il y a là, donc, dans cette construction de l'église, la volonté d'une consécration mariale. Donc toujours ce signe de Marie attaché au Carmel. Le 5 avril 1227, un bref de Grégoire IX nommera les ermites qui se tiennent sur le Mont Carmel, les ermites de Sainte Marie du Mont Carmel. Toujours référence à Notre-Dame. En Orient arrive à cette époque la persécution musulmane et l'ordre va être contraint de passer en Occident. Un récit de l'époque raconte que la Sainte Vierge apparut au supérieur de l'ordre pour conseiller ce passage, ce qui va sauver l'ordre en effet, car en 1291, les derniers carmes demeurant sur le Mont Carmel seront massacrés. Un autre récit, qui se trouve dans la liturgie de l'époque, dit que Notre-Dame serait apparue à Honorius II, le pape de l'époque, pour l'enjoindre à bien accueillir ce nouvel ordre qui va arriver en Occident. Et donc, en 1235, l'ordre quitte le Mont Carmel, débarque en Occident, où il devient un ordre mendiant. Simon Stock est élu général de l'ordre en Angleterre, et là, il doit faire face à de nombreuses difficultés. Les franciscains, les dominicains existent déjà, ça fait beaucoup de religieux mendiants pour le peuple et pour les autorités. L'ordre a ses coutumes spéciales, il vient d'Orient, il a un habit bizarre, un manteau blanc barré de noir, et les gens se demandent, mais qui sont ces nouveaux religieux? Et face à cela, Saint-Simon Stock va vouloir adapter un peu la règle. Et c'est au sein même de l'ordre que vont se trouver des divergences, des difficultés. On parle de dégénérescence, le supérieur général adoucit la règle. L'ordre est menacé dans son existence même. Et alors il va se produire quelque chose, c'est la nécessité d'un retour aux sources. Pour se préserver du péril qui guette l'ordre, les carmes vont devoir préciser les titres auxquels ils appartiennent. Ils vivaient leur vocation, mais là, ils vont préciser leurs titres. Et c'est la première fois qu'apparaît en Occident leur titre « Frère de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel ». Volonté pour cet ordre qui arrive en Occident de dire qui il est. Frère de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Leur origine, c'est donc Élie et Notre-Dame. Et alors, à ce moment critique de l'ordre, eh bien, nous allons avoir l'intervention de Notre-Dame, et c'est là le plus important. Je vous livre le récit le plus ancien qui existe sur cette apparition de Notre-Dame. Souvent, Saint Simon Stock, dit le récit, suppliait la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu et patronne de l'ordre, de doter de quelques privilèges les frères qui portent son nom. Chaque jour, d'une voix très dévote, il lui disait en ses prières, « Fleur du Carmel, vigne fleurie, splendeur du ciel, Vierge Mère unique, douce Mère qui ne connut point d'homme, aux enfants du Carmel, donne tes privilèges, étoile de la mer. » Et un jour, tandis qu'il récitait dévotement cette prière, la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, lui apparut accompagnée d'une multitude d'anges, et tenant en sa main le scapulaire de l'ordre, elle lui dit « Voici le privilège que je te donne à toi et à tous les enfants du Carmel, quiconque meurt revêtu de cet habit sera sauvé. » Intervention de Notre-Dame au moment où tout semble perdu pour l'ordre. Et là, Saint Simon Stock va se sentir plein de courage, il fera face à toutes les difficultés qui vont se mettre sur son chemin, et l'ordre va se développer. L'ordre sera consolidé dans ses fondations et il va s'étendre. Et là, dans les décennies qui suivent, les fondations vont se succéder. Nous avons donc l'intervention de Notre-Dame qui vient sauver son ordre. Comme la nuée au Mont Carmel était porteuse de la pluie salvatrice, Marie est pour son ordre porteuse de salut. Et on voit se profiler le sens de ce vocable. Qui est Notre-Dame du Mont Carmel ? Elle est celle qui sauve à l'heure où tout semble perdu. Et nous allons continuer à le voir dans l'histoire de l'ordre. Le 17 juillet 1274, c'est le deuxième concile de Lyon. Approbation des franciscains, des dominicains, refus d'approuver les carmes. Nouvelle difficulté. En 1298, le pape Boniface VIII, après certainement beaucoup d'insistance de la part de l'ordre, va modifier les textes du concile de Lyon et approuvera les carmes, ce qui fait qu'on pensera dans l'histoire que les carmes ont été approuvés dès le deuxième concile de Lyon, en 1274, nouvelle victoire que les carmes attribuent à Notre-Dame. Autre événement qui va montrer la maternelle bonté de Notre-Dame pour son ordre, c'est la vision que rapporte la tradition de Notre-Dame au futur pape Jean XXII pendant le conclave. Je vous lis le texte de cette vision, texte qui a été rapporté 100 ans après cette vision. Le pape Jean XXII, profondément angoissé en son âme et en but en même temps à la tribulation extérieure, plaçait avant tout sa confiance dans la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Un certain jour, avant son élection, tandis qu'il était plongé dans la prière et implorait dévotement le secours de Marie, cette bienheureuse et toujours Vierge Mère de Dieu lui apparut, revêtue du costume de l'ordre des Carmes, et lui tint ce langage. « Ô Jean, Jean, vicaire de mon Fils, vois donc comme moi je t'ai obtenu cette grâce magnifique, pour que tu la payes à mon ordre, à mes frères choisis, et que tu confirmes la règle que commencèrent à vivre Élie et Élisée au Mont Carmel, et que composa mon serviteur le patriarche Albert. Et comme innocent vicaire de mon Fils et ton prédécesseur, leur imposa cette règle pour la rémission de leurs péchés. De même, donneras-tu à mon ordre, en mon nom et au nom de mon Fils, ce privilège. Que quiconque entrera en cet ordre et observera dévotement ce genre de vie sera sauvé éternellement et délivré de la peine et de la culpe. Et si, au jour de leur passage en notre vie, ils sont amenés au purgatoire, moi, la Mère de grâce, je descendrai le samedi au purgatoire après leur mort. Et je délivrerai ceux que j'y trouverai et les ramènerai à la montagne sainte, allusion au Carmel, et à la vie éternelle. » Voilà. Deuxième privilège que Notre-Dame apporte à son ordre. Alors, ce privilège sera rapporté dans la bulle qu'on appelle la bulle sabbatine par le pape Jean XXII, le 3 mars 1317, la bulle Sacratissimo Culmine. Bon, cette bulle est transcrite dans une autre bulle de Sixte IV au fin du XVe siècle. Que faut-il penser de l'authenticité de cette vision, de l'authenticité de cette bulle ? C'est la controverse depuis des siècles. Des historiens pensent que c'est authentique, d'autres disent que non. Ce n'est pas le lieu ici de développer ce problème. Quoi qu'il en soit, sur ce privilège sabbatin, sur cette apparition, le privilège lui-même a reçu les approbations de nombreux papes. Et même si la bulle rapportait une vision au sens où le père Marie-Dominique nous le disait hier, voir c'est aussi à cette époque comprendre une inspiration qui est donnée par le bon Dieu, eh bien le privilège lui-même est approuvé par tous les papes. Donc la querelle historique, je dirais pour nous, importe peu, le privilège est approuvé par Clément VII, 1534, dans la bulle Ex Clementis Edis Apostolice, par Paul III, par Saint Pie V, par Paul V, par Benoît XIV, etc., etc., etc. Nombreux papes ont approuvé ce privilège. Alors la vision, qu'est-ce qu'il en est de cette vision ? Peu importe, le privilège sabbatin existe, il est confirmé par le magistère de l'Église, pour nous, c'est ce qui compte. Autre événement dans l'histoire de l'ordre, donc nous voyons un petit peu ces événements, hein. Donc l'apparition à Saint-Simon-Stock, ensuite cette reconnaissance de l'ordre en 1274, ensuite la vision avec la bulle sabbatine, 1374 maintenant, nouvelle épreuve pour l'ordre à Cambridge, en Angleterre, grand débat. les opposants des Carmes veulent leur dénier le titre de frères de la Vierge. Alors là, c'est une grande disputatio, débattre. Est-ce que l'ordre de la Vierge revient, ce titre ordre de la Vierge revient-il au Carmel ? Et l'université finira par reconnaître. Le susdit ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel est confirmé par le droit commun et le titre de la Glorieuse Vierge de la Bienheureuse, la Bienheureuse Vierge Marie, lui revient d'une manière spéciale. 1374, 100 ans après 1274, les Carmes tout de suite disent nouveau signe de Notre-Dame, de son intercession. Alors, dans l'ordre, face à tous ces périls auxquels la Sainte Vierge répond par des bienfaits, va naître le désir de remercier le bon Dieu par une fête. Et, déjà à cette époque, on célébrait Notre-Dame, l'ordre du Carmel, bien sûr, mais il n'y avait pas de fête patronale. L'ordre, selon la région, célébrait une grande fête patronale, mais c'était l'Immaculée Conception. En Angleterre, c'était l'Assomption. C'était différent selon les régions. Petit à petit, l'histoire ne s'est pas bien fixée quand, mais le choix de la date va se faire pour le 17 juillet, en souvenir du 17 juillet 1274, l'approbation de l'ordre. Souvenir d'une fête, faite en souvenir de ces bienfaits que Notre-Dame accorde à l'ordre. Et il est intéressant de noter que cette fête n'est pas la fête du scapulaire. Ce que l'ordre retient, c'est que Notre-Dame, plusieurs fois, a sauvé son ordre. Dans l'histoire, très vite, au XVIe siècle, pour une raison que nous ignorons, la fête du 17 juillet va passer au 16 juillet. Et très vite, on fera l'amalgame avec le scapulaire, et cette fête deviendra la fête du scapulaire, la fête de l'habit. Mais historiquement, à l'origine, c'est une fête qui veut commémorer solennellement l'œuvre de Notre-Dame pour son ordre. Et donc, le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel est essentiellement celle qui intervient dans les difficultés, dans les périls. Et le scapulaire est le signe, le symbole de cette intervention de Marie. Donc, Notre-Dame du Mont-Carmel n'est pas d'abord la Vierge du scapulaire. Elle est celle qui intervient à l'heure où tout semble perdu. Arnold Bostius, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un carme de Gand en Belgique, le plus célèbre des écrivains carmes du XVe siècle, qui a écrit donc son « Du patronat de Notre-Dame », il déclare que le scapulaire a été donné par la Sainte Vierge non seulement pour les carmes, mais pour tous les fidèles chrétiens. Et de fait, nous assistons en deux siècles à un prodigieux développement du scapulaire. Fin du XVIe siècle, l'Espagne et le Portugal, dit le père Élisée de la Nativité, dans son livre « Le scapulaire du Carmel », il dit que l'Espagne et le Portugal sont un immense Carmel où tous portent le scapulaire. Henri IV avait reçu le scapulaire à sa naissance et il l'a porté toute sa vie, même à la tête des armées protestantes. Et certainement, c'est à son scapulaire qu'Henri IV a dû sa conversion et il fondera en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel un ordre de chevalerie. Au XVIIIe siècle, en France, le scapulaire est répandu dans toute la société. Comment s'est réalisé cet essor ? Eh bien, tout d'abord, des bienfaiteurs affiliés à l'ordre, qui portent sous leurs habits laïcs le scapulaire. Divers nobles du royaume d'Angleterre, puisque Saint-Simon Stock était là-bas, le bienheureux Édouard II, roi d'Angleterre, qui fondera d'ailleurs une maison des Carmes à Oxford. Et en 1524, va se constituer la confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui substantiellement est toujours restée la même. C'est-à-dire que deux prêtres, carmes, obtiennent du pape Clément VII deux bulles prévoyant deux manières d'entrer dans la confrérie. Et donc, possibilité pour les laïcs, pour les fidèles, de se joindre à un tiers ordre, à une confrérie, et donc d'être unis spirituellement à l'ordre du Carmel. Et en 1530, donc ce que je disais tout à l'heure, une constitution apostolique du pape Clément VII qui confirmera le privilège sabbatin, et ensuite en 1570, eh bien, le prieur général mentionnera les conditions pour gagner l'indulgence sabbatine, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais donc nous voyons très vite, en fait, cet essor du scapulaire qui est né dans le Carmel et qui se répand dans toute l'Église. Bien sûr, le protestantisme va favoriser cet essor. Toujours le père Élisée de la Nativité qui dit que l'instinct catholique et populaire se révolta à la pensée d'une religion dont serait absente cette confiance filiale et continuellement exprimée envers Marie.